Tout de suite, voici en direct le Libre Journal de Serge de Becquet. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 18h.
Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Becquetch, diffusé en direct mercredi 17 juillet 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 18 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 et par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la dissidence, bonsoir. Vous savez, il faut que je vous aime pour être venu, parce que franchement, j'étais à Villepreux il y a une heure. Ah, Villepreux. Villepreux, ça a l'air comme ça, un peu sinistre. Enfin, on dirait là une banlieue, territoire occupé et tout. Non, 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 pas du tout. Villepreux, c'est un endroit merveilleux. Il y a un établissement qui s'appelle Grand Maison. Les Grands Maisons. Vous ne connaissez pas ça? C'est là que se tient l'université d'été de Renaissance catholique. Alors, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des lieux comme ça qui existent. C'est d'une splendeur, mais incroyable. Ah oui, oui, c'est très, très, très beau. C'est un lieu où on fait des réunions, des séminaires, des réunions d'entreprise, des choses comme ça. Mais alors, c'est un morceau du château de Villepreux. Et c'est incroyablement élégant. Sont très très bien à Renaissance catholique. C'est pas des purotins, ils font pas ça dans des hangars ou des parkings aménagés. Non, c'est bien, bien, vraiment magnifique endroit. Si vous voulez organiser un séminaire, je vous le recommande. Franchement, vous me demanderez l'adresse parce qu'on fait pas de publicité à Radio Courtoisie, mais je vous assure que ça en vaut la peine. Et en plus, c'est tenu d'une façon parfaite par des gens charmants. Enfin, que demande le peuple? D'ailleurs, le peuple, il demande à habiter dans des trucs comme ça. C'est pour ça qu'ils ont fait la révolution. Ces imbéciles, moyennant quoi, ils n'ont rien eu du tout. puisque ça appartient quand même toujours à des gens qui sont bien, quoi, voilà. Bon, et puis cette université d'été de Renaissance catholique, c'est toujours très bien. Moi, je trouve que ça devrait durer toute l'année. Il y a des gens intéressants qui parlent en dehors de moi, hein. Des gens intéressants qui parlent de sujets intéressants à des gens intéressés. C'est quand même exceptionnel. C'est un peu ce qu'on essaye de faire dans cette émission, même si on n'y arrive pas toujours. Alors ce soir, je reçois Patrick Goffman, qui est déjà venu.
Présent.
Qui est écrivain, journaliste, et toutes ces sortes de choses, mais qui est l'auteur d'un livre que je vous recommande, qui s'appelle Cœur de cuir, qui est un fort bon livre, bien écrit. C'est rare dans la littérature française aujourd'hui, hein, des livres bien, bien écrits. C'est un livre écrit par un homme en plus. C'est pas... enfin bon, voilà.
Merci Serge.
Bon, et donc, très bon livre, c'est vrai. Et puis intéressant parce que ça raconte une vraie histoire. Alors, il est paru chez qui déjà ?
Cœur de cuir est paru chez Flammarion en 98 déjà. Et
déjà
j'en ai vendu 2200 déjà.
Mais c'est un gros succès 2200, non Pierre ?
Ah oui, c'est bien.
Parce que je reçois aussi Pierre Jovanovic, que j'ai déjà reçu dans cette émission lui aussi pour parler d'un livre qui a quand même intéressé les auditeurs de l'émission, semble-t-il. C'était Notre-Dame, enfin le livre du père François Brune sur Notre-Dame de Guadeloupe. Qu'on s'est arraché à la vente du livre de Radio Courtoisie.
Absolument, oui. Il y avait la biographie de l'archange Gabriel, surtout.
Oui, et bien alors...
On avait l'annonciation, voilà. Si je puis dire.
Alors, Pierre Jovanovic est auteur et éditeur. Et il fait pas de l'auto-édition, mais il édite ses propres livres en tant qu'éditeur. C'est quand même une bonne combine, ça. Au moins, il est sûr qu'il est pas volé. Ou alors, il est complètement schizophrène. Non mais c'est vrai, 2200, c'est bien comme tirage.
Ah pour un roman, oui, c'est très bien. En général, les éditeurs, quand ils ont fait 400-500 exemplaires, sont relativement contents. Et c'est vrai qu'un roman, c'est très très difficile, parce qu'il y a des dizaines de milliers qui sortent chaque année.
Je ne sais pas si les auditeurs ont bien entendu ce que vous venez de dire, Pierre. Quand un éditeur, non pas un auditeur, mais un éditeur vend 400-500 exemplaires d'un roman... Il est plutôt content.
Il est plutôt content parce que, en général, le fonctionnement de l'édition, vous savez que les libraires, en fait, n'achètent pas les livres, c'est simplement ce qu'on appelle un dépôt-vente. Et en conséquence, quand vous faites un tirage, par exemple, de 2000 ou de 4000 exemplaires, et que vous avez, au bout de 3 mois ou 6 mois, vous avez sur les 4000 exemplaires, 3800 exemplaires qui vous reviennent, donc ça veut dire que vous avez vendu 200 livres. Donc c'est la grande règle en fait de l'édition et la règle pour un bon roman, c'est-à-dire que vous avez 2000 exemplaires et que les 2000 partent, si je puis dire. Et dès que vous avez des commandes, et bien à partir de ce moment-là, on fait une réédition.
C'est extraordinaire, c'est des chiffres dont personne ne parle jamais, ça.
Si vous le souhaitez, Serge, je peux ajouter, dans la mesure où j'ai travaillé pas mal dans l'édition, moi aussi. Qu'il y a pire que le dépôt-vente, il y a ce qu'on appelle l'office, c'est-à-dire, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les éditeurs envoient d'office, sans les consulter, aux libraires des quantités de livres astronomiques. J'ai vu de mes propres yeux un libraire très expérimenté, très pondéré, donner des coups de pied de rage dans des cartons qui portaient des étiquettes prestigieuses que je ne nommerai pas, mais celles des plus grands éditeurs français, et me dire « je passe mon temps et je me casse le dos et je me ruine » à ouvrir ces cartons, à les refermer au bout de 5 minutes, à les renvoyer, je n'en peux plus. Vous parliez de 400-500 exemplaires, ça tient à une réalité technique qui est qu'aujourd'hui les progrès de l'imprimerie sont tels qu'on peut amortir une vente à 500 exemplaires. Alors les éditeurs qui ont de plus en plus de mal à déterminer ce qui va se vendre ou non, ils nous font l'année dernière à la rentrée 350 premiers romans, cette année près de 500, et la plupart sont tirés à 500 exemplaires, et effectivement, ce sera rentable si on arrive à les vendre, mais tous ne dépasseront pas le chiffre de 15, 20 ou 30 exemplaires vendus.
Et quel est l'impact? J'avais pas du tout l'intention de parler de ça, mais c'est quand même un sujet. Ça n'est jamais évoqué nulle part, ça. Et quel est l'impact d'une émission comme, une émission à la télévision, j'ai pas de nom qui me vient à l'esprit, mais une émission littéraire à la télé. Ça permet de...
Alors oui, à l'époque, c'était l'émission de Patrick Poivre d'Arvor, pour laquelle je suis passé pour le livre sur les anges gardiens. Et c'est vrai que le lendemain, le moniteur de l'époque, Philippe Aki, avait enregistré, je crois, 2500 commandes. Mmh. Donc c'est effectivement, la télévision a un impact colossal. Mais attention, toujours, je ne donnerai un autre exemple qu'on connaît d'un écrivain très très connu, qu'on voit très très souvent à la télévision, et malgré une trentaine de passages télévision, son livre s'est lamentablement traîné à 3000 exemplaires.
C'est pas quelqu'un dont le prénom, dont le nom commence par Bernard et finit par Henri Lévy, non?
Non, mais c'est dans le même mouvement. Ouais, c'est les 3-4 qu'on retrouve régulièrement, effectivement.
Mais de quoi ils vivent, ces gens-là? Parce que quand on vend 500 exemplaires d'un roman, le roman est vendu 100 francs, donc
le droit d'auteur est 10%,
grosso modo. 10%, donc voilà. Il gagne 10 francs par exemplaire. Voilà. Donc 500 exemplaires, ça fait 5000 francs.
Voilà.
Donc avec ça, il va vivre jusqu'à la publication de son deuxième roman.
Bah, je crois que vous savez, aucun écrivain, parce que vous êtes d'accord avec moi, mais personne, je n'ai jamais écrit en me disant que j'allais faire un best-seller. Vous savez, je crois que livre
quand
de vie
propre. Quand vous choisissez les anges gardiens, vous devez douter qu'ils vont mettre la main à la pâte et que, grâce à eux, vous allez quand même faire un best-seller.
À l'époque, croyez-moi, c'est pas évident. J'ai été refusé par les plus grandes maisons d'édition.
Oui, mais ça, c'est pas critère.
C'est ça qui est drôle. C'est à l'époque, on me disait non, les anges, ça marche pas, ça n'intéresse personne, etc. Et alors que c'est vrai, moi, je l'avais écrit vraiment parce que ça me passionnait, quoi.
Et alors, pour en venir au sujet qu'on va évoquer ce soir avec vous, Patrick. Limonov, qui a publié plusieurs livres en France. C'est ça, c'est 400, 500 exemplaires?
Effectivement, c'est un des bons côtés de Radio Courtoisie, c'est que on peut, et c'est un bon côté pour les auditeurs avant tout, hein, on y déballe des secrets qui sont soigneusement dissimulés ailleurs, hein. Et toute la conversation qu'on vient d'avoir, je pense pas qu'on pourrait l'avoir sur ni à la télévision ni sur la plupart des radios, parce que tout simplement elles dépendent de la manne publicitaire, et même s'il n'y a pas de publicité directe pour les livres à la télévision, c'est interdit. Il y a des connivences et il y a des réseaux d'intérêt économique, bon, dans lesquels Radio Courtoisie n'est pas pris. Alors on peut remettre ces questions-là. Édouard Limonov, donc je vais dire ses petits secrets. Il est en prison, alors il peut pas me taper dessus s'il est pas content. Je crois, je suis même sûr qu'il ne nous capte pas. Je peux dévoiler ce petit secret que Limonov, ses ventes en France, la vente de la quinzaine de livres qu'il a publiés en France chez les plus grands éditeurs, n'a jamais correspondu à la notoriété qu'il a acquise assez vite. Ses livres se sont toujours très mal vendus, quelques centaines ou quelques milliers d'exemplaires dans certains cas, mais en général quelques centaines d'exemplaires seulement. Alors que en Russie, il vend des dizaines de mille, il approche des 100 000 ou des 200 000 fréquemment.
Ça vous répondait un peu à une question que j'allais vous poser, parce que ça m'a l'air quand même, ces chiffres dérisoires, enfin, qui paraissent dérisoires, de 400 ou 500 exemplaires pour un roman dont on parle à la télévision ou dont les gens parlent, enfin, ça paraît quelque chose de très français, non ? Est-ce que c'est la même chose pour ce que vous en savez à l'étranger?
Je crois savoir que, de même que celle de la presse quotidienne, la situation du livre en France est un peu plus difficile qu'à l'étranger. Je vous citerai Jean Dutour, hein, pour enfoncer le clou, pour vous consoler, qui écrivait « Le public, le vrai public d'un écrivain, c'est quoi ?» Au XXe siècle, comme au XVIIe ou XVIIIe, 2 000 ou 3 000 personnes à tout casser. Je me souviens d'Alphonse Boudard, qui avait tenu des propos comme ceux que nous sommes en train de tenir sur France Inter, ce qui était vraiment très courageux de sa part, qui dévoilait en particulier certains mécanismes des prix littéraires, et qui disait... et qui disait à propos de des tirages que on voyait à Noël dans les librairies débarquer des gens qui disaient donnez-moi 3 Goncourt et 5 Renaudot. Est-ce que le livre de Bernard Henri Lévy qui s'est vendu à 100 000 exemplaires là, dont le titre m'échappe mais qui il était encore un peu philosophe à l'époque, même s'il reconnaît maintenant qu'il est largué quand il s'égare dans un congrès de philosophie. C'est un livre de philosophie. Il en a vendu 100 000 dans les supermarchés. Combien de ces livres ont été ouverts et combien sont restés sur la table du salon pour épater la cousine Berthe?
C'est tout à fait étonnant parce que d'abord, c'est des chiffres qu'on n'imagine pas. Et ensuite, c'est des chiffres qui expliquent beaucoup, beaucoup de choses quand même, notamment les prix littéraires, notamment les magouilles de prix littéraires. Parce qu'il est évident qu'un éditeur qui publie 100 bouquins qui vont se vendre à 500 exemplaires chacun, le 101e, s'il peut en vendre 50 000 ou 60 000, ça lui permet de voir clair. Et donc, à ce moment-là, le prix littéraire, le prix devient une question de survie.
Absolument. Par un éditeur. Oui, parce que le prix littéraire, en fait, garantit un tirage, c'est minimum 5 000.
Le Goncourt garantit un minimum de 20 000 exemplaires hein, pour le livre le plus illisible. Et ça peut aller bien au-delà.
Donc 20 000 exemplaires, déjà, c'est une petite respiration, une petite bouffée d'air frais pour l'éditeur.
Ça fait 200 000 francs pour l'auteur, à peu près. Donne des chiffres ronds, approximatifs, bien sûr, les auditeurs le comprennent.
Ben voilà, des choses que...
Ça a toujours été un peu comme ça. Les premiers livres de Camus étaient tirés à 300-400 exemplaires.
Alors en somme, moi, quand avec Sanders, on a fait la nuit de Jéricho, on a vendu 4000, on a fait un best-seller.
Ah mais absolument, absolument, totalement.
Et personne n'en parle. Je suis même pas dans le livre des records. Je suis même pas dans le Queen. Enfin, c'est invraisemblable, quand même. Bon. Donc pour en venir à Limonov, vous connaissez Limonov, Pierre?
Pas du tout.
Ah ben alors...
Gaspardine Jovanovic, vous me surprenez beaucoup.
Je suis désolé.
Vous n'êtes pas un peu serbe? Vous savez, Limonov est un peu en prison pour votre peuple.
Hein. Ah, mais son peuple, c'est le peuple français.
Je suis arrivé en France, j'étais vraiment très jeune.
Sa servitude est une vieille histoire de famille.
N'est pas une certitude.
Ma servitude n'est pas une certitude.
Non, alors, donc, expliquez Patrick à Pierre et puis à nos
et les auditeurs vont profiter. Nous, Gaspardin Jovanovic, vote.
On pouvait le faire en français,
parce que votre prononciation est très bonne.
Eh bien, je vous remercie, Serge, de me convier une troisième fois en l'espace de quelques mois à faire la chronique des déplorables aventures de Limonov au pays des Soviets. Ou ce qu'il en reste, puisqu'effectivement nous avons eu du nouveau. Alors, je rappelle d'abord l'ancien en deux mots. Édouard Limonov, Édouard Savienko dit Limonov, donc a été expulsé du RSS, fils d'officier du NKVD, il était naturellement devenu un voyou de la pire espèce, doublé d'un poète, ce qui faisait vraiment que son cas était pendable, et qu'il a été expulsé du RSS au milieu des années 70. Naturellement, il s'est précipité à New York, où, à sa grande déception, sa poésie a été fort mal reçue. Il a dû faire toutes sortes de petits boulots, majordome, etc. Et puis Jean-Jacques Pauvert...
Je sais pas dans quelle maison ils étaient, mais ils ont pas dû être déçus. Qui avait embauché Limonov comme majordome.
Oui, ça devait être intéressant. Mais
maintenant, on peut espérer qu'ils vont... engager Maxime.
Oui. Hein? Il a raconté la chose d'ailleurs dans un ouvrage paru en France sous le titre de l'histoire de son serviteur. Pour les gens qui s'intéressent d'étudier son CV qui envisageraient de l'embaucher comme majordome. Et puis au début des années 80, Jean-Jacques Pauvert le publie enfin. Pour la première fois en Occident en français, et le livre a...
Alors, pardon de vous couper, mais ça c'est une illustration un peu à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Pauvert c'est quelqu'un qui a gagné de l'argent avec des livres à scandale de la littérature érotique, et on peut même dire pornographique d'une certaine manière, et il consacrait une partie de cet argent à publier des auteurs qui faisaient pas des gros tirages.
Et je crois que c'est lui qui disait que le premier devoir d'un éditeur, c'est de gagner de l'argent.
C'était un type pas mal, Pauvert, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En tout cas, c'était un paradoxal amusant, puisque, sauf erreur de ma part, ce gars qui était très, extrêmement sulfureux, il était sulfureux pour les autres, mais ses filles étaient quand même dans un établissement, dans une institution religieuse. Donc,
ça explique que les successeurs de Pauvert, aux éditions Pauvert, qui sont maintenant la propriété, je crois, de Grasset, se soient refusés avec énergie à signer la pétition pour la libération de leur auteur, franco-russe Limonov, alors que j'ai aucun doute que Pauvert aurait signé dès demain, de la même façon que des éditeurs qui sont politiquement indépendants ou tout à fait à gauche, comme Gauthier du Dilettante, entre autres, ont signé dès demain, tout en étant indifférents ou même très hostiles aux positions politiques de Limonov, tout simplement parce que c'est leur auteur, parce que c'est d'abord et avant tout un écrivain, quelles que soient les fariboles politiques dans lesquelles il s'est jeté, et qu'ils estiment qu'il est victime d'un procès injuste. Donc il est arrivé en France au début des années 80 et il a commencé à publier pas mal, comme je le disais tout à l'heure, des livres originaux, surprenants, assez attachants chez les plus grands éditeurs français. Il s'est accoquiné, je ne vois pas d'autre terme, avec Jean-Édouard Nalier, Patrick Besson, Marc-Édouard Nab et tout ça, notamment à la rédaction de l'Idiot International. Et puis, sa critique du capitalisme s'est radicalisée de telle sorte qu'il a pris fait et cause de façon très radicale pour les Serbes au moment de l'éclatement de la Yougoslavie, qu'il s'est rendu sur place, qu'il a fait des reportages qui étaient publiés tantôt dans Révolution, organe du PCF, et tantôt dans le choc du mois que d'aucuns qualifiaient de luxueux mensuel de péniste, comme j'avais un bulletin de paye là-bas, je peux vous dire que le luxe y était quand même assez modéré.
Il n'était ni plus luxueux, ni vraiment le péniste, faut bien reconnaître.
C'est tout à fait mon avis. Et il a fini donc en 94 par rentrer en Russie pour y participer au redressement, à la reconstruction du pays. Il a continué à se radicaliser. Il était proche du parti de monsieur, rappelez-moi son nom.
Girinovski.
De monsieur Girinovski, merci. Ils se sont brouillés.
Pas son nom actuel.
Oui, voilà. Bon, ne nous embarquons pas sur Girinovski, il y aurait tant à dire. ils se sont brouillés et Limonov a donc, voici quelques années, fondé le Parti National Bolchevique, dont il faut dire que c'est un groupe que beaucoup qualifient de terroristes de la tomate. Ils ont arrosé Zyuganov, le patron du PC néo-stalinien de tomate. C'est une militante nationale bolchevique qui a giflé à Riga il y a quelques mois le prince Charles avec un bouquet de fleurs. Ils ne se sont jamais compromis dans des actes violents, mais voici un peu plus d'un an que la pensée russe numéro 4400 a donné tous les détails et même des noms, des provocateurs manipulés par le FSB ex-KGB sont parvenus à vendre deux vieilles kalachnikovs et un lot de munitions à des gamins de 15-16 ans à Saratov, charmante bourgade sur la Volga entre Marx et Engels à 500 km de Stalingrad en amont. Donc c'est
ça doit quand même être un joli pays, ça.
Ouais, on imagine. Donc ces jeunes crétins, dont d'ailleurs on pourrait retrouver peut-être des proches dans l'actualité française, se sont jetés sur ces kalachnikovs et, aux surprises, ils ont été arrêtés.
C'était pas des carabines à moineaux, alors.
C'était pas des 22 longs rifles, non. C'était des kalachnikovs, mais, aux surprises, eux aussi, ont été immédiatement arrêtés et embastillés. On les a attachés au radiateur un petit quart d'heure. Et puis on les a aidés avec un annuaire ou je ne sais quoi ou une chaussette à sable à se rappeler que c'était Limonov qui était alors occupé à écrire un livre dans une cabane au fin fond de l'Altaï, qui leur avait donné l'ordre d'acheter des kalachnikovs si possible usagés, pas trop chers, de façon à prendre le pouvoir au Kazakhstan dans les meilleurs délais.
Oui, c'est élémentaire.
Voilà. Alors, les ninjas du FSB, le GIGN local, ne fait ni une ni deux. Je m'excuse d'arriver en rire, mais bon, ça fait quand même un an que nous ramons pour essayer de sortir Limonov de cette histoire de pieds nickelés. On finit par être obligé de se dépêcher d'en rire avant d'être obligé d'en pleurer. Les ninjas, mais là, je n'invente pas, hein, du FSB, sautent sur l'Altaï et sur la cabane de berger de Limonov qui était en train de tailler ses plumes. Et donc l'arrête à 20 ou 30 et le voilà Lefortovo qui est à Moscou, la prison d'État extrêmement dure, comme vous le savez Serge, depuis que vous avez lu dans le Libre Journal numéro 270
sa lettre,
une journée d'Edouard Veniaminovitch, lettre de prison, récit par Limonov lui-même de sa vie quotidienne en prison, une des prisons les plus dures du monde. Pas tout à fait à l'isolement, mais au contraire condamné à la promiscuité avec des co-détenus plus ou moins intéressants, plus ou moins bruyants et plus ou moins raffinés.
Comment on appelait ça dans les camps de concentration des tchèques, non?
Des moutons.
Des zecs.
Le zec, c'est le détenu du goulag.
C'est le droit court.
Ouais,
il tabasse ça. Les...
Ouais.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Mais Limonov, si vous lisez son texte de près, laisse entendre de quelle façon, par exemple, quand il explique que lui se rendort et que c'est l'autre qui doit attendre pendant une heure qu'on apporte le petit déjeuner, qu'il refuse parce qu'ils ne prennent le petit déjeuner ni l'un ni l'autre, mais on les réveille tous les matins à 7 heures pour leur poser la question. Quand Limonov, j'ai jamais séjourné en prison encore, mais j'ai lu assez de littérature de prison pour savoir que quand Limonov indique que c'est l'autre qui doit attendre, vous voulez le petit déjeuner et répondre non merci comme tous les jours depuis un an, on comprend qu'il l'a mise au pas, hein, et que si on lui a envoyé avec ses 100 kilos pour le dresser, lui casser la gueule, ce droit co, c'est raté. Il faudra en envoyer un autre.
On lui a fourni un garde du corps.
Limonov, d'ailleurs, on peut l'envier à certains égards, puisqu'il est encore plus vieux que nous, qu'il frise la soixantaine, mais que, raconte-t-il, pendant une heure dans la prison, il fait des pompes, des flexions de bras sans fin. J'avoue que je me contente de 10, moi, le matin, que je m'estime heureux, et qu'il fait même un exercice qui consiste à courir en position agenouillée. Donc, je suis impatient de toucher 60 ans pour arriver enfin à faire plus de 10 pompes le matin. Bon, mais je m'égare. Si je suis là, c'est que le procès s'est ouvert après plus d'un an au trou, à Lefortovo, une prison très dure. On est très mal nourri.
Il faut bien insister, je crois, sur le fait que c'est quelqu'un qui n'a tué personne et qui a été dénoncé par des gens qui n'ont tué personne. Ils sont contentés d'acheter des pétoires dans le but fantasmatique de prendre le pouvoir, comme un gosse pourrait acheter une carabine à moineau dans le but fantasmatique de mettre à 150 mètres de distance une balle dans la tête d'un président de la République. À supposer même d'ailleurs que la balle ait touché la tête, il aurait encore fallu qu'elle trouve le cerveau. C'est un moment. Bon, donc on est là dans l'ordre de la provoque grossière, et pour cette provocation, Limonov vient de passer un an en régime dur dans une prison sévère, et son procès donc finalement vient de s'ouvrir.
Alors le 8 juillet, transport de justice à Saratov. Alors je dois dire que le tribunal de Saratov avait énergiquement refusé le dossier, qui tout le monde l'a compris, sent un peu le j'allais dire la poudre, au moins le salpêtre des caves de la Loubianka, puisque c'est le FSB, héritier des méthodes et des locaux du KGB.
Probablement des hommes, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Le président, le respectable et respecté président Poutine, pour lequel j'ai la plus grande considération, bon, on n'en avait pas moins, un colonel du KGB. Il est à croire, d'ailleurs, que certains services zélés ont cru lui faire plaisir en montant cette remarquable opération.
Oui, moi, j'allais vous poser cette question, parce qu'on comprend assez mal. C'est vrai qu'on voit bien que Poutine est quand même un personnage exceptionnellement intelligent, avisé, je dirais pas malin, mais parce que c'est un mot dévalorisé maintenant. Mais enfin, on voit qu'il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait comment y aller. Et il a un comportement qui est vraiment remarquablement intelligent.
C'est un judoka.
Oui, mais alors là...
Il sait utiliser la force de l'adversaire.
Là, on ne comprend plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi accepte-t-il cette situation, alors qu'il commence à y avoir un mouvement d'opinion internationale? Il y a quand même quelques centaines de signatures de personnalités du monde littéraire dans le monde entier. Je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas une décision d'élargissement, alors qu'il y a une explication, vous alliez le dire, c'est que effectivement, ce sont des services, ce sont de zélés serviteurs de l'État qui ont voulu faire les malins pour se faire bien voir du président et qui lui ont remis entre les mains ce qu'on appelle en Bretagne un bâton de poulailler.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, vu dans l'œil d'un policier, encore une fois, je voudrais pas dire de mal de la police plus que je n'en dis de Poutine. Je suis de plus en plus flicophile au fur et à mesure que je vieillis. Mais vu de l'œil d'un policier qui ne s'intéresse pas à la littérature, il y en a. Limonov, c'est vraiment un clown. Il signe des autographes dans la rue, bon, comme une pop star. Et puis, il se mêle de dire que la Russie devrait garder la flotte de Crimée et ne pas la donner aux Ukrainiens.
À l'Ukraine, oui.
Et de dire que si, que ça, de donner des conseils au pouvoir politique. Combien chef a-t-il de divisions? 400 gamins? Alors, l'opinion internationale nous reproche un certain nombre de débordements antisémites, de culs noirs caucasiens qui se font tabasser sur les marchés de Moscou. Eh bien, on va faire un exemple. Et je demande son avis à Poutine. Non, on lui dit rien, on va lui faire une surprise. Alors aujourd'hui, le président Poutine ne peut pas désavouer ses services, parce qu'effectivement, le FSB a des choses plus importantes et plus intéressantes à faire et plus urgentes pour le pays, a des tâches sérieuses et importantes à remplir. On ne peut pas le désavouer de but en blanc. Néanmoins, on peut penser que, on peut espérer un prochain élargissement de Limonov dans la mesure où, et je reprends le fil de mon histoire, le procès est ouvert à Saratov dans les conditions suivantes. Le tribunal donc de Saratov, le tribunal local qui avait renvoyé le dossier à Moscou, qui ne voulait pas avoir affaire à cette opération du FSB, a donc été contraint de l'accueillir, et dès le 8 juillet, lundi, renvoie au 8 juillet, au 9 juillet, le lendemain, renvoie au 9 septembre. Entre-temps, le tribunal déclare que le procès qui devait être à huis clos, compte tenu de la dangerosité du personnage et de la gravité de l'affaire, prise du pouvoir, tentative de putsch au Kazakhstan avec deux Kalachnikovs, que ce procès serait public. Alors, je ne veux pas aller trop loin dans l'interprétation, mais on peut penser que le tribunal de Saratov, en annonçant un procès public, tente à nouveau, par un autre moyen, de renvoyer l'affaire à Moscou. Si on considère, si on examine les dépêches d'agence, en particulier celle d'Associated Press le 9 juillet, également reproduite, je m'excuse d'avoir l'air de faire de la publicité pour votre organe, le Libre Journal, mais je suis quand même obligé de le dire, également reproduite dans le Libre Journal numéro 270, et qui nous dit, changement de ton remarquable, que finalement, Limonov pourrait bien, au dire de certains experts, être un bouc émissaire. Quand on considère le changement de ton également de l'agence France Press, qui nous câble depuis Moscou que finalement Limonov est d'extrême gauche, alors qu'on ne pouvait pas voir une ligne nulle part dans aucun organe français sans qu'il soit inondé de termes comme antisémite,
ultranationaliste.
Alors attention, il est d'extrême gauche, ultranationaliste, Serge.
Vous, c'est nouveau, ça vient de sortir.
Voilà, vous mettez ça dans votre mouchoir, vous examinerez ça à la maison. mais c'est quand même un changement de ton remarquable, d'autant plus que c'est toujours dans le Libre Journal, l'AFP me téléphone dans ma mansarde pour me demander une déclaration.
Oui, mais ça, c'est justifié dans la mesure où je ne me trompe pas en disant que c'est vous qui avez pris l'initiative du mouvement Liberté pour Limonov, au départ.
En France, hein, c'est réellement une campagne internationale. Il y a des réactions en particulier. Je vous avoue que j'ai très peu d'influence sur PEN International, le PEN Club International, qui a 94 sections dans le monde, dont certains clubs ont signé la pétition française. D'autres, comme le PEN Club belge francophone, s'en sont retirés. D'autres, comme celui de Moldavie, m'envoient des messages d'injures, m'accusent de vouloir mettre fin à l'indépendance de la Moldavie, ce qui est une calomnie.
Et les Poldev, non, ils mangent pas.
J'ai acheté récemment un lance-pierre, mais ça n'a aucun rapport avec l'indépendance de la Moldavie, dont je pense ce que vous pensez peut-être comme moi, comme de l'indépendance de l'Ukraine, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc, je n'ai aucune influence sur les PEN Club et PEN Club International et son organisme basé à Londres et sa succursale américaine, vous pensez bien, qui ont déclaré, mais exactement comme la pétition française, que on ne peut pas partager, pour la plupart d'entre nous, les vues politiques de Limonov et son terrorisme, de la tomate, du extrême gauche ultranationaliste, mais que... qu'on n'a pas besoin de Kalachnikov non plus, mais que c'est un grand écrivain, des plus grands écrivains vivants, qu'il a droit à un procès loyal et qu'en attendant, il doit être immédiatement élargi parce qu'il présente toutes les garanties de représentation et qu'il n'a jamais mis en danger l'ordre public autrement qu'avec des mots, des fleurs ou des tomates. Alors, on commence à l'admettre. On a eu très peu de presse en France depuis un an. Quand on en avait, c'était assorti d'injures aussi bien pour Limonov que nous autres. Maintenant, il y a un changement de ton tout à fait remarquable. L'AFP m'a demandé une déclaration, l'a traité avec beaucoup de rigueur et d'honnêteté. Et elle me l'a demandé, comme vous le dites, uniquement parce que je suis parmi ceux en France qui sont à l'origine de cette pétition, avec ses publics, je ne révèle pas un secret, Patrick Besson, que tout le monde connaît, et avec votre ami, notre ami Alain Pocard.
Alain Pocard, oui. Et ce qui est amusant, c'est qu'on en arrive à des paradoxes tels que Patrick Goffman, petit-fils d'un officier de l'armée impériale russe, s'exprimant dans une émission animée par Serge de Beketch, petit-fils d'un officier de l'armée impériale russe, en faveur d'un national bolchevique enfermé par le président Poutine, libérateur de la Russie soumise au joug communiste. Donc là, on est dans le... C'est quand même... Il y a une dimension surréaliste aujourd'hui.
Poutine, que nous ne haïssons pas, et la plupart des signataires de cette pétition ne le haïssent pas. Alors nous sommes bien d'accord, on va encore révéler un secret, une nouvelle révélation sur Radio Courtoisie. Limonov est un emmerdeur.
Oui.
Il n'y a pas de doute.
S'il fallait mettre en prison tous les emmerdeurs, les Russes seraient dépeuplés. Je crois que mon sort serait pas si gai que ça.
Touche pas à mon pote l'emmerdeur.
Vous évoquiez tout à l'heure les ressemblances lointaines avec l'actualité française. Vous inspirez un commentaire à l'actualité française en ce moment, la chasse au président de la République avec des carabines à moineaux.
Titre sobrement crétin.
Oui. C'est un peu vite dit quand même ça. C'est, je trouve que c'est un peu vite dit. Moi, j'ai une opinion légèrement différente. Je ne sais pas, c'est un crétin, je ne connais pas ce garçon. Pas du tout. Je ne défends pas de le connaître. Si je
crétin
connaissais,
parce
je le
que mégalomane, look the TV on Sunday, will be the star. Regardez la télé, je serai la
juste
vedette.
La oui.
Vous savez, comme cet individu qui avait mis le feu au temple de Diane, oui. Dont vous allez me rappeler le nom.
Non, justement pas. C'est ça la vengeance, la vengeance de l'histoire. Et c'est que voyez, personne ne se souvient de l'incendiaire de la bibliothèque de d'Alexandre.
Donc quand je suis avec un verre dans le nez, je m'en souviens, c'est drôle, hein, et on dit que l'alcool... Hein.
Non, parce que j'ai fait cette réflexion tout à l'heure devant quelques amis, à propos de ce jeune homme qui s'appelle comment, Maxime
Brunnery. Tiens, c'est
Brunnery.
Drôle, lui, on se souvient de lui une
oui,
semaine
ben,
après. Hein.
C'est deux jours, hein. Enfin vous vous souvenez, moi non, je me souvenais déjà plus de son nom.
Vous savez, France Info me le ressasse 30 fois par jour.
Oui, et en tout cas, moi je constate une chose, c'est que depuis des années, on nous dit... La jeunesse est avachie, la jeunesse ne pense qu'à s'installer devant la télévision, la jeunesse n'a pas d'idéal, la jeunesse n'a pas de courage, la jeunesse n'a pas de volonté, la jeunesse ne pense qu'à aller danser dans les boîtes de nuit, de faire des rêves partis, de fumer du hack-kick. Voilà un jeune homme qui a un projet, il a une idée, et il prend sans fusil.
Je crois que Jean Ferret va prendre ses grands ciseaux, lui.
Non, non, je n'approuve pas. Non, je n'approuve pas du tout. Il n'y a pas de ciseaux à Radio Courtoisie. Je n'approuve pas du tout ce qu'il a fait, je le précise. Moi, je ne l'aurais pas fait parce que je suis beaucoup trop lâche. Mais il faut reconnaître quand même que cette jeunesse qu'on accable de tout, ben voilà un exemple de jeune qui va au bout de ses idées. Bon, c'est des mauvaises idées, je suis bien là. Moi, je suis comme vous, comprenez, je suis absolument hostile à toute
acte. Je pense surtout qu'il voulait passer à la télé, avant toute chose.
Pourquoi minorer comme ça son comportement? Donc, là, vous lui faites un procès d'intention. Moi, je crois qu'il a...
Non, il l'a dit, il a écrit. Look the TV on Sunday, I will be the star.
C'était la cerise sur le gâteau, c'est Rambo.
Non, c'est Star Academy qui fait des émules.
Ah oui, mais à la limite, voilà. Non, mais justement, parlons-en. Pour passer à la télé, il y a une autre solution, c'est de se présenter à Star Academy ou à Loft, je ne sais quoi.
Non, mais se présenter à Star Academy avec un fusil de chasse.
Voilà, c'est logique. Bon, je vois que vous voulez pas parler sérieusement du sujet. En tout cas, on l'a échappé belle, hein, parce qu'on était reparti pour une campagne présidentielle. Et là, j'en ai marre.
Président.
D'autant que tous les partis sont ruinés. Oui, en plus, tous les partis sont ruinés par les élections. Non, ce qui aurait été drôle, c'est quand même qu'il y ait... Parce que là, il y aurait une nouvelle élection. Le Pen était au premier tour, il était en tête. En bonne logique, puisque celui qui était devant lui au premier tour est sorti du jeu.
J'espère que nous aurions connu un autre sursaut républicain.
Ah voilà. Ah bah oui, justement. Pour le coup, on aurait eu un autre. Enfin, tout ça, c'est mal oublié. Alors, avant les présidentielles, M. Chirac avait parlé d'insécurité. C'est un auditeur qui nous dit ça. Le 14 juillet, il a précisé que cette insécurité était routière. Je présume qu'en octobre, après les vengeances, cette insécurité routière ne sera plus qu'alcoolique et que les droits de l'homme seront respectés. Mais c'est pas faux ce qu'il a dit le 14 juillet, Chirac, parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine insécurité dans la bagnole sur laquelle il défilait sur les Champs-Élysées. Il ne se connaissait pas, mais il y a quand même là... il dit pas que des bêtises. Hein. Il y a d'autres messages. Alors, je les lis comme ils viennent. Sommes-nous des soviétiques? Le tireur à la carabine a été mis en hôpital psychiatrique, mais le réfugié albanais qui avait poignardé Douste Blasi avait lui aussi été conduit en hôpital psychiatrique. Et pourtant, on peut supposer que Maxime Bruni n'avait pas, avec Jacques Chirac, la même relation que le poignardeur albanais avec Douste Blasi. D'abord, il n'a pas tiré dans le dos, pour commencer. À ce train-là, c'est le cas de le dire, aurons-nous assez de place chez nous ou devrons-nous en louer à l'Union soviétique? Ah, voilà un truc pour, voilà une bonne idée. Pour Poutine, pour mettre un peu de gras dans les épinards, si tant est qu'il y a encore des épinards en Russie, il pourrait louer des prisons qui sont vides maintenant.
Il loue bien les fusées.
Ben voilà. Donc, le goulag étant vide, on pourrait leur envoyer peut-être quelques... Puisque maintenant, Sarkozy veut créer des centres de détention pour les jeunes. Ben là, c'est tout trouvé.
On pleure pour 20 000 places de prison.
Voilà, plutôt que de penser à 20 000 places.
Il y en a sûrement plus de libres dans le goulag.
On prend 20 000 places d'avion ou de train.
La Sibérie, ça coûte moins cher en plus.
Et puis en plus, c'est le grand air. Vladimir Poutine est un grand homme d'État et c'est lui. Si, c'est vrai, c'est le grand air, la Sibérie. Il peut même faire du ski. Enfin, du ski de fond parce qu'il n'y a pas beaucoup de pentes. Et c'est lui et lui seul qui est en train de refaire la Russie, de la Russie une grande nation. Au lieu de critiquer sans savoir, mieux vaudrait balayer devant notre porte. Mais justement, on a dit le contraire. Ça fait 10 minutes qu'on dit que Poutine est un grand chef d'État.
Il y a des auditeurs remarquables, ceux par exemple qui m'ont remboursé la note de téléphone consécutive à mes activités pour Limonov. Je les remercie encore au passage, je les ai remerciés individuellement, mais je les remercie collectivement parce qu'ils sont quand même balèzes d'avoir réussi à m'envoyer à l'euro près le montant précis de ma note de téléphone.
Ouais.
Mais il y a d'autres auditeurs de courtoisie, et je le constate à chaque fois que j'écoute la station, qui n'ont que ce péché mignon de ne pas écouter Radio Courtoisie.
Mais ils répondent à des choses qu'ils n'ont pas entendues. Par exemple, là, monsieur, je vous le répète, madame, pardon, parce que c'est une dame, nous avons dit, et c'est mon opinion et je la partage, en tout cas avec GoFan, mais il faut dire que nous, on est quand même un peu russo-positif sur les bords, qu'on considère que Vladimir Poutine est un grand bonhomme. En tout cas, il est plus intelligent que Bush, je ne sais même pas si c'est un compliment, et il est même probablement plus intelligent que Chirac. Va savoir. Et même peut-être que si on arrivait à additionner le QI de Chirac et le QI de Bush, on n'arriverait pas au QI de Poutine. Vous voyez, c'est mon opinion. Eh bien, donc on l'a dit 3 fois, et vous nous dites, au lieu de critiquer sans savoir, je vois qu'est-ce qu'il faut qu'on le fasse, hein, pas, Hein, c'est quand même pas le bon Dieu.
Putain. Un, on sait, et deux, on critique pas.
Voilà.
Non, mais il a dû prendre une phrase en cours.
Concernant la personne qui a essayé de tuer, c'est un auditeur qui nous dit ça, de tuer M. Chirac. J'ai remarqué que l'on mettait en exergue le fait qu'il était dans la mouvance dite d'extrême droite. Il est curieux qu'aucun média, lorsque le criminel est... Alors là, il y a un mot que je ne citerai pas. Et que les médias ne mettent jamais en exergue le fait qu'il œuvre dans l'univers. Et là, un nom de religion que je ne citerai pas, parce que en ce moment, quand même, j'ai pas envie d'avoir trop d'ennuis, ça devient dangereux. Quand on dit musulman, maintenant, on est tout de suite traîné devant les tribunaux. Regardez, même Daniel Mermet de France Inter, il a été traîné devant les tribunaux. Alors moi, je fais gaffe, je ne dis plus de religion. Donc, quand il y a marqué musulman, je ne le dis pas. Voilà, tout ça, pas d'histoire avec la police de la pensée. Oui, c'est vrai qu'on a dit qu'il était d'extrême droite. Et ça a permis à l'AFP, c'est un auditeur qui m'envoie ça, de faire un papier qui est extrêmement bienvenu parce que il s'appelle Mouvement d'extrême droite et actes de violence exemple. Alors il y a la liste des actes de violence commis par l'extrême droite depuis 1994. Hein, c'est-à-dire 8 ans, je sais compter. Hein. Bon, et c'est exhaustif puisque c'est dans l'AFP. Alors en 8 ans, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actes de violence qui ont été commis par l'extrême droite. En 8 ans, un par an. Si vous trouvez un autre groupe social dans la population, y compris les Verts par exemple, qui a moins de 1 acte de violence ou de délinquance par an, j'achète tout de suite, mais ça n'existe pas. Alors, et encore, les actes de violence, vous allez voir, absolument, il y a des choses absolument effroyables. Par exemple, en 94, qu'est-ce qu'a trouvé l'AFP pour montrer l'épouvantable sauvagerie de l'extrême droite française? Je vous le lis. Un sympathisant du Front National. C'est déjà pas un adhérent, c'est un sympathisant. Bon. Âgé de 24 ans, tire des balles en caoutchouc, sans blesser personne, contre des étudiants de l'UNEF de Montpellier. Il est condamné à 6 mois ferme par le tribunal correctionnel de Marseille en mars 98. Alors, Patrick, je voudrais pas rappeler des souvenirs douloureux, qui sont les vôtres et les miens, encore que dans des circonstances légèrement différentes, mais fut une époque où certains n'utilisaient pas que des balles en caoutchouc, et quand ils rencontraient des gens de l'UNEF, ça ne donnait pas que des résultats comme celui-là où personne n'est blessé et où il n'était pas question de coller 6 mois ferme. Moi, je crois qu'il n'y ait eu un seul militant d'extrême gauche qui a pris 6 mois ferme de prison pour n'avoir pas blessé quelqu'un. Mais un militant d'extrême droite, 6 mois ferme pour avoir tiré des balles de caoutchouc en direction des gens de l'UNEF sans les blesser.
Je crois même me rappeler qu'il arrivait qu'on blesse des gens sans que ça ait les honneurs du communiqué, ni même que ça attire l'attention de la police.
Absolument. Alors, après, Brahim Bouram, un Marocain de 29 ans, est jeté dans la Seine, ça c'est en 95, par des skinheads en marge du rassemblement du Front National. Alors il y en a un, c'est un sympathisant du Front National, les autres c'est en marge du Front National, et il faut quand même se rappeler que dans cette histoire, ces gars ont été maintenus par le SO du Front National en permanence, hors de la manif, parce qu'on savait très bien que c'était des provocateurs payé par un service de police ou un service de barbouze quelconque et qu'il fallait les empêcher de s'intégrer au défilé et qu'ensuite ils ont été alpagués, repérés par les gens de la DPS qui les ont apportés aux flics. Donc c'est quand même assez difficile de faire porter le chapeau à l'extrême droite démocratique et républicaine. Hein. En 97... Le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, bouscule sérieusement Annette Peulvaz-Berjal, candidate socialiste et maire de Mantes-la-Jolie. Il l'a pas bousculé, ni sérieusement, ni plaisamment, il l'a pas touché. Il l'a simplement pas touché. Voilà. Donc, mensonge de plus.
Oui, mais il parlait très fort.
Il parlait fort.
J'ai vu les photos.
C'est comme le caoutchouc qui ne blesse personne. Il m'a crié dans les oreilles.
Elle levait le coude tellement il parlait fort.
Il a été pour cela déchu de tous ses mandats nationaux, c'est vrai, parce qu'il avait parlé un peu fort. Tandis que le communiste, là, j'allais dire l'ordure, mais c'est un pléonasme, donc c'est pas la peine de le dire, qui lui est rentré dans la foule avec sa voiture, volontairement, il a été gracié
par Chirac. Bon.
Encore un Maxime.
Encore un Maxime. Décidément, ils sont dangereux, les Maximes. Enfin, les Maximes communistes sont plus dangereux que... Un conseiller municipal PS de Marc-en-Barœul est blessé. Alors ça, c'est la française parlait à AFP. Vous avez dit du bien de l'AFP, moi je corrige quand même. Hein. Juin 99, un conseiller municipal PS de Marc-en-Barœul, Nord, est blessé d'une triple fracture à la main par deux personnes se disant du Front National. Alors qu'il tentait de les séparer de couleurs d'affiches de l'UDF. Ça me paraît un peu bizarre.
C'est bizarre, c'est bizarre.
Mais il est blessé, il a été blessé de triple fracture à la main. Donc il a été blessé quatre fois à Marc-en-Barœul et trois fois à la main. Deux couleurs d'affiches en 2000 du mouvement national républicain MNR de Bruno Maigret sont impliquées dans une rixe au cours de laquelle des coups de feu sont tirés. Vous voyez comment c'est écrit ? Ils sont impliqués, c'est-à-dire on leur a tiré dessus. Eh bien, ils sont impliqués dans une rixe au cours de laquelle des coups de feu sont tirés.
Je crois que s'ils avaient tiré eux-mêmes, ah, ça serait
dit de façon
plus explicite.
Évidemment.
Grave, oui.
Ils seraient condamnés par le tribunal correctionnel de Toulon à des peines de 4 à 6 mois de prison ferme pour violence avec armes en réunion et préméditation. Ça fait penser à cette vieille histoire américaine où on voit le flic, le shérif arriver, et plus exactement, il y a un noir qui rentre dans le bureau du shérif en titubant et il s'affaisse sur le bureau du shérif et dans le dos il a un poignard planté et le shérif l'inculpe pour port d'armes prohibées. Voilà. Et ben voilà, donc les crimes de l'extrême droite française, 8 en 8 ans, dont 2 avec des balles en caoutchouc, 1 avec une paire de baffes et 1 avec des coups de fusil qui ont été tirés par les adversaires. C'est quand même pas mal ça comme bilan. Si les prisons de françaises ne renfermaient que des gens aussi lourdement coupables...
Est-ce que c'est pas un peu humiliant, comme la carabine à moineaux d'ailleurs, pour l'extrême droite française qui maintient, je me demande comment, une réputation de virilité, de violence, parce que il faut ajouter ou retirer à ce bilan les 8 morts du Front National dont on ne parle jamais. Donc est-ce que c'est la nouvelle vocation de la droite musclée, comme on l'appelle, que de se faire casser la gueule, massacrer? Si ouais, vous me permettez provocateur à mon tour.
Ben oui, mais regardez, quand il y en a un qui se laisse pas humilier, voilà ce que ça donne. Alors un auditeur nous dit, le 22 long rifle est la meilleure des munitions, faut-il encore savoir s'en servir? Oui, bien sûr. Mais moi, je voudrais quand même qu'on me montre un garçon de 25 ans qui est capable de placer une balle dans une cible de la taille d'une tête de président de la République à 150 mètres.
C'est ça la mégalomanie.
Il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même. Hein. Bon. D'autres messages lisibles, parce que les illisibles, je ne les lis pas par définition. Alors, c'est pas Victoria qui me passe les messages, je le sais, parce que la pauvre Victoria est souffrante. On l'embrasse, d'ailleurs. Je ris, mais c'est méchant de rire. Je devrais pas rire, parce que elle est malade à cause d'un médicament qu'elle prend pour se soigner une autre maladie. Donc, franchement, laissez tomber la médecine. Prenez les produits du professeur... comment il s'appelle déjà j'ai un trou.
Le
Ribot, voilà. Les produits du bon docteur Le Ribot, ça ira beaucoup mieux. Je vous signale que les Allemands de Schröder envoient leurs voyous en Sibérie dans des conditions militaires et les Allemands financent. Cela leur coûte moins cher. Mais c'est génial cette histoire. On a eu une idée d'Allemand. Mon cher Goffman, félicitations. Ça, c'est vos origines qui parlent quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier que Goffman, en réalité, c'est Hoffmann. Ça veut dire les capitaines. C'est un Russe qui serait un petit peu d'origine germanique, que ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Et enfin, pouvez-vous parler de la récupération de l'île Persil par les Espagnols? Je trouve ça rigolo comme tout, l'histoire de l'île Persil, parce que c'est un rocher qui était complètement désert, bien entendu. Je voulais foutre d'un rocher au large de Gibraltar. Et les Marocains ont placé deux gendarmes pour faire un acte d'occupation. Bon. Et... normalement, c'est un acte de belligérance, hein, l'occupation d'un territoire par des troupes armées, c'est un acte de belligérance. Et normalement, en vertu des traités européens, il devait immédiatement y avoir une mobilisation générale de toutes les forces européennes, et puis une intervention sur l'île Persil avec bombardement, parachutistes, etc. Bon. Là, non, tout le monde a trouvé ça très bien, personne n'en a parlé, on écrase mollement devant une poignée de gendarmes marocains. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gendarmes marocains, mais c'est pas ce qu'on fait de plus terrifiant quand même.
On écrase. Hein, oui. On les a sortis, vous êtes au courant. Hein,
ah, ça y est, ils les ont...
Ah oui.
Alors, qui les a virés? Je ne suis pas au courant du tout. Les Espagnols?
Ah non, entre-temps, oui, l'armée espagnole est intervenue. Il n'y a pas eu un coup de feu tiré, quelques coups de pied dans le cul,
oui.
Et les gendarmes marocains sont repartis d'où ils venaient. Voilà. Enfin,
mais l'Europe n'a pas...
Mais l'Europe n'a pas réagi, et ça c'est inquiétant, parce qu'on n'aura peut-être pas toujours affaire à des Marocains. On pourrait, je sais pas moi, être envahi par des millions d'étrangers ou gouverné par l'Amérique sans réagir.
Cela dit, il faut quand même ajouter un petit truc, un petit détail, c'est que le Maroc, comme vous le savez, est candidat pour entrer dans l'Europe. Et qu'il y a un autre pays qui est dans l'Europe, lui, bel et bien, et qui occupe un territoire espagnol. C'est la Grande-Bretagne qui occupe Gibraltar, autre rocher. Alors, est-ce que fort de ce précédent des îles Persiles, les Espagnols vont dire maintenant, on a viré les gendarmes marocains des îles Persiles, on va virer les Anglais du rocher de Gibraltar.
Ce serait très malouin.
Ce serait très malouin. Bravo, merci. Belle forme. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider Limonov d'une manière ou d'une autre, ou vous aider à aider Limonov?
Oui, bien sûr. J'ai une adresse électronique, patrick.goffman@wanadoo.fr. Donc j'ai reçu encore aujourd'hui la signature d'un professeur américain qui a été informé, je pense, par le net. Donc si on connaît des personnalités artistiques, littéraires, n'importe où dans le monde, on peut me demander la documentation, le texte de la pétition. Je ne voudrais pas perpétuellement agiter la sébile, mais je ne dissimule pas que j'ai reçu d'autres notes téléphoniques depuis que Radio Courtoisie, les auditeurs de Radio Courtoisie m'ont remboursé. Donc il est toujours loisible d'envoyer un chèque, même modeste, à Patrick Goffman, au bon soin d'un certain SDB
Libre Journal, 4 Place Francis,
voilà, 75-010
Paris.
Voilà,
vous mettez bien sur l'enveloppe, s'il vous plaît, parce que ça nous évite de l'ouvrir, pour Patrick Goffman, ou Patrick Goffman, Libre Journal, 4 Place Francis. C'est tout à fait légitime, puisque Patrick tient une chronique maintenant décadaire dans le Libre Journal, 4 Place Francis, 75-010 Paris. C'est l'adresse qui vaut aussi si vous vous décidez enfin à vous abonner.
Il n'en coûte que 110 €. Je ne cesse de le sérénier à mes meilleurs amis.
Et les chèques d'abonnement sont à faire à l'ordre de SDB. Les chèques de soutien à Limonov sont à faire à l'ordre de Goffman, parce que c'est pour payer son téléphone. Voilà. Que pense de Beckett du livre Noir Chirac, me demande un auditeur. J'ai dit ce que j'en pensais dans le Libre Journal. Je pense que c'est un livre extrêmement intéressant. Et quand on l'a lu, on mesure, mais vraiment on mesure, le drame, la tragédie épouvantable de la démocratie. C'est-à-dire que tout est dedans. On vous dit, voilà qui est Chirac, voilà qui il est. Bon. Et les gens ont voté pour lui malgré tout. Donc ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut dire n'importe quoi, on peut sonner le tocsin, faire retentir le glas, hurler, monter sur les... On peut faire tout ce qu'on veut, ça n'a aucune importance. Le peuple démocratique est un peuple abruti totalement. Ils ont décidé que la vilaine bête, c'était Le Pen, et qu'ils allaient voter Chirac, et ils ont voté Chirac. On a vu Schwarzenberg, c'était incroyable, le jour de la Garden Party de l'Élysée, de la Jardin Party de l'Élysée, Schwarzenberg est arrivé en disant « Mais moi, je suis là à ma place, puisqu'après tout, j'ai voté pour lui au second tour. » Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie qui avaient voté Chirac, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez voté comme Monsieur Schwarzenberg. C'est quand même c'est assez valorisant, je trouve. Et puis, lisez Noir Chirac et vous verrez qui vous avez élu. Je pense que il vaut mieux avoir... des regrets que des remords. Non, des remords que des regrets. Ça, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Mais là, vous pouvez vous payer les deux. Alors, sur le Figaro d'hier, il y avait, nous dit un auditeur, une photo de Brunnery dans le défilé je ne lis pas la date très bien. À votre avis, pourquoi un journaliste garde-t-il des archives de cette sorte? Ne fait-il pas le métier d'Hergé? Bonne question, je vous remercie de l'avoir posée, monsieur. Est-il vraiment indispensable de donner des leçons? Je voudrais remarquer une chose, c'est que quand il y a des photographies qui sont prises de jeunes voyous des territoires occupés qui foutent le feu à des voitures, systématiquement on met un bandeau sur les yeux. Systématiquement. Là, le défilé du 1er mai, toutes les photos qui ont été publiées ont été publiées de façon à ce que les militants qui ont défilé soient parfaitement reconnaissables, premièrement. Et deuxièmement, dans le cas de Maxime Brunnery, dans l'heure qui a suivi, ou le lendemain matin, le lundi matin, les télévisions et les radios donnaient son adresse intégrale. Pas seulement le bled où il habite, mais l'adresse, le nom de la rue et le numéro. C'est unique, ça. Si bien que ses parents ont été obligés de quitter, n'ont pas pu se réinstaller chez eux en rentrant d'Espagne, où ils ont appris la bonne nouvelle. D'ailleurs que ça, moi je pense beaucoup à eux, je pense à ces pauvres gens qui le matin mettent France Info International pour écouter les informations et savoir ce qui se passe en France, et ils entendent qu'il y a un garçon qui s'appelle Maxime Brunnery, c'est-à-dire leur fils, qui vient d'être arrêté pour avoir essayé de tirer sur le président de la République. Ça, comme fin de vacances, c'est un petit peu brutal. Et quand ils sont rentrés, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas habiter chez eux parce qu'il y avait une meute de journalistes, bien entendu, et qu'il y avait aussi la possibilité de manifestations, d'agressions, etc. Parce que toutes les radios et télévisions, y compris radio et télévision d'État, avaient donné leur adresse complète. Et ils sont obligés maintenant de vivre dans un hôtel, ce qui est toujours très agréable dans des circonstances comme ça. Au lieu de dépenser des sommes d'argent considérables pour essayer sans succès de remettre les jeunes sur le bon chemin, pourquoi ne leur ferait-on pas signer un engagement de 5 ans dans la Légion étrangère et s'occuper ? Eh bien, je vais vous donner la réponse, cher auditeur qui posait, parce que la Légion étrangère n'en veut pas. Elle n'en veut pas, à aucun prix. À l'heure actuelle, je crois que le taux de réception de la Légion doit tourner autour de 8%, quelque chose comme ça.
Pour 8%?
Oui, pas plus. Pour 100 qui se présentent, il y en a 8 qui sont pris. Et sur les 8 qui sont pris, je crois qu'il y en a un ou deux qui sont gardés à l'issue de la période d'essai.
C'est surprenant de trouver dans les éditeurs de Radio Courtoisie des gens qui pensent que la Légion est un dépotoir alors que c'est une arme d'élite.
Oui, mais c'est vrai que c'est aussi...
Que les Marines américains admirent et qui est très sélective.
Non, mais là, je pense pas que l'idée, ce soit que c'est un dépotoir. C'est vrai que c'est un laminoir à hommes. C'est-à-dire qu'on fait rentrer une larve et il en sort un homme complet. Et c'est une école de formation extraordinaire. Bon, c'est un milieu que je connais un peu. Et c'est vraiment un milieu c'est une école fantastique. Si le type a un peu de moelle. Naturellement, une loque, ça sortira comme une loque. Mais si le type a un peu de moelle, même si c'est un voyou, ils arrivent à en faire un type bien. Et on a l'exemple avec, moi je pense toujours à Puig et Dovkar, qui sont des gars qui avaient absolument Dovkar en tout cas, qui n'avaient rien à faire avec cet univers-là et qui s'est battu et qui est mort pour la France, alors que c'était vraiment pas la raison pour laquelle il avait. C'est probablement pas la raison pour laquelle il s'était engagé dans la Légion, mais ils lui ont donné l'amour de la patrie, de cette patrie d'adoption qui était devenue la France. Et voilà. Rectification au sujet de Hoffmann, alors que c'est Hauptmann. Vous avez dit que c'était capitaine en allemand, alors que c'est Hauptmann capitaine. Non, 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 monsieur, pas du tout. Si vous regardez votre dictionnaire d'allemand, il y a Hoffmann et Hauptmann qui sont tous les deux, qui veulent dire capitaine tous les deux. Il faut bien regarder les dictionnaires allemandais. Voilà. Pour ma part, nous dit un auditeur, je pense que Maxime Brunnery a été manipulé par les services secrets français. Ils se sont servis de ce jeune homme, l'ont probablement drogué dans le but de faire tirer sur Chirac. C'est pour ça qu'il l'a raté, d'ailleurs. Le président pourra ainsi redorer son blason. À mon avis, il en faudrait plus que ça. Je ne sais pas s'ils l'ont drogué, je ne sais pas. Je crois, c'est possible qu'il ait été manipulé, mais je pense pas qu'on ait besoin de droguer les gens. Il y a des méthodes qui ont pour les chambrer, pour dire un type qui va être un héros, allez vas-y, il faut y aller, il y a un type comme toi. C'est comme ça que les gaullistes ont fait assassiner Darlan par ça y est, j'ai un trou. Bonnier de la Chapelle. Merci mon cher Daniel Amiche, qui est vraiment mon ange gardien par Bonnier de la Chapelle. Ils lui ont dit, voilà, tu vas être un héros, vous allez être un héros, parce qu'à l'époque on se vous soyait. Et Bonnier de la Chapelle a tué Darlan, et ils lui ont dit, vous n'aurez aucun problème, mon petit, je vous prends sous mon bras, vous êtes couvert. C'est Riton qui avait fait ça, qui était dans le coup. Et puis dès qu'il a été pris, on s'est empressé de le zigouiller, comme ça il n'a pas pu raconter sa vie à des gens trop curieux. Beckett, je viens de dire que le Maroc est candidat à l'entrée en Europe. Est-ce un canular ou avez-vous une information sérieuse? Non, c'est absolument sérieux.
Mais l'Algérie est candidat.
Ça fait longtemps. Israël et le Maroc.
L'Algérie sera
candidate, voilà. Les Marocains veulent récupérer les deux villes espagnoles de la côte marocaine et donc ils commencent par récupérer l'îlot, nous dit un auditeur. C'est bien, mais il y a qu'à leur rendre les deux villes espagnoles. Mais il y en a une autre ville espagnole. Non, il ne faut pas. Besançon, vieille ville espagnole, peut-être. Ils l'ont déjà récupéré, les Marocains. Donc, ce n'est pas la peine de leur donner. Voilà. Alors, on change complètement de sujet. Oui, mon petit Daniel, qui est spécialiste des questions espagnoles, lui parle français.
C'est pas de lui, c'est deux enclaves qui sont en possession espagnole depuis plus de 5 siècles.
Avant les Marocains, alors.
Avant qu'il y ait le royaume chérifien comme il est actuellement, quoi. Donc, il ne faut pas exagérer, quoi.
Pourquoi les Marocains ont-ils un shérif ? J'ai jamais bien compris cette histoire. C'est compliqué, hein.
Allez, entretiens-toi plutôt avec notre camarade.
Vous plairait-il, avant de changer de sujet, Serge, de faire signe aux techniciens pour envoyer l'illustration musicale que j'ai apportée.
Alors, d'abord, il faut que j'identifie. Si vous écoutez encore, c'est Radio Courtoisie que vous écoutez. Le libre journal de Serge de Beketch, c'est-à-dire moi-même. C'est pour ça que je ne m'identifie jamais. Ça me paraît schizophrénique. Et pour terminer, enfin, avant de passer au livre de Pierre Jovanovitch, édité par Pierre Jovanovitch, qui s'appelle Enoch, dialogue avec Dieu et les anges. C'est un livre sur le livre d'Enoch, et c'est le premier livre vraiment passionnant qui a été écrit sur le livre d'Enoch. Enfin, on va en parler. Donc, avant ça, on va écouter un morceau. Alors, dites-nous un peu, racontez-nous l'histoire.
Le Puits, morceau de musique traditionnelle ukrainienne, interprété par mes voisins.
Mes voisins, c'est le nom du groupe ou...
Non. Mes voisins, ce sont des gens qui habitent à côté de chez moi, que j'entends vocaliser et jouer de l'accordéon et de la bandoura toute la journée et une partie de la nuit.
La bandoura ?
Ils s'appellent, instrument traditionnel, c'est une espèce de balalaïka géante.
Ah, c'est la grande balalaïka.
Ukrainienne. Alors, ils s'appellent Yuri et Lyudmila Fedorov. Ils sont ukrainiens comme Savienko Dilimonov, ukrainien bien russifié, bon patriote russe, et ils m'ont donné, en tant que voisin, je suis allé gratter à leur porte quand j'ai traduit une journée d'Edouard Veniaminovitch, la lettre de prison d'Edouard, parce que Foufaïka, j'avoue que je ne savais pas que c'était une veste de prisonnier. Ils m'ont donné un sacré coup de main avec cette traduction. Alors d'habitude, je viens avec le disque, toujours le même, de Natasha Medvedeva, l'excellente chanteuse russe qui est l'ex-épouse de Limonov. Les auditeurs doivent en être saturés. Alors maintenant, Lyudmila Yuri Fedorov, Le Puits, musique traditionnelle ukrainienne.
Ça vous plaît, Jovanovitch ?
Oui.
Bon, c'est comme ça parle un peu à nos gènes, quand même.
Ah, tout à fait. Ah,
c'est beau. Et vous, Amich ? Amich ? Pas du tout. Bon, on passera à autre chose. On passera de la barbouka. La barbouka pour le barbu. Il veut pas se raser, il n'y a rien à faire. Hein. Ah, si vous le voyez, c'est un cauchemar. Ce garçon qui était si beau. Alors, Pierre Jovanovitch et Anne-Marie Bruyant, agrégé de lettres classiques, tant qu'à faire. Enoch, dialogue avec Dieu et les anges, paru au Jardin du Livre, collection intemporelle.
Jardin des livres.
Jardin, pardon, des livres.